Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous recevons Michel Granek, l'auteur du roman Une grande voyage qui vient de paraître chez David Reynarck Édition. Bonsoir Michel.
Bonsoir Sandrine.
Alors comment vous présenter? Si on dit que vous êtes un psychiatre et un psychanalyste d'Israël, est-ce que ça suffit?
Je sais pas, pour commencer, oui. Ensuite, ça dépend de ce qu'il faut rajouter ensuite. Mais oui, enfin, psychiatre et psychanalyste en Israël.
Oui, ça fait combien de temps que vous résidez en Israël?
Depuis 1975, ça devrait faire donc 47 ans.
Un petit moment. Alors, votre actualité, qui nous vaut votre présence ici, c'est la parution du roman Une grande voyage, à prononcer avec l'accent yiddish, j'arrive pas trop bien à le faire. Comment vous diriez-vous le titre?
Je dirais Une grande voyage, quelque chose comme ça.
D'accord, ça me rappelle ma grand-mère. Alors, c'est un livre sur la transmission, celle de la mémoire de la Shoah. Votre roman s'articule autour de deux parties. La première s'intéresse à votre grand-père Mocek Leb Granek, un juif de Pologne, Chazan Moel et Chochet, qui, fuyant les persécutions avec son épouse Soura et son fils Joseph, se réfugie en France. En France, où il va être interné au camp de Gourse, après avoir été raflé, puis à Drancy, avant d'arriver par le convoi 51 à Maïdanek, et il disparaîtra dans la tristement célèbre marche de la mort après la libération du camp d'Auschwitz le 19 janvier 1945. Et puis il y a une seconde partie, en miroir, qui relate la vie parallèle du fils de Mocek, votre père Joe, entre l'arrestation de son père et la libération. Entré précocement dans l'âge adulte, il entrera tout aussi précocement en résistance, et c'est aussi les actions de résistance de son épouse, votre mère, qui nous permet d'être abordé. Alors, le récit débute par une carte postale envoyée du camp de Drancy par votre grand-père à votre grand-mère. Est-ce que c'est la découverte de cette carte postale qui a initié l'écriture de ce roman? Racontez-nous, d'où vient l'idée de faire ce livre?
Absolument. J'ai trouvé mes parents, qui se sont donc rencontrés en 1943, ne se sont quittés que trois semaines pendant 74 ans plus tard, pendant les trois semaines qui ont séparé le décès de ma mère de celui de mon père. Pendant ces trois semaines, j'ai mis de l'or dans des papiers avec mon père. Je suis tombé sur la carte postale dont j'ignorais l'existence.
Alors, il faut dire qu'elle est très émouvante parce que c'est une sorte de translittération en caractère latin. Il y a des fautes d'orthographe.
Il y a des fautes de français.
Oui.
Dans le livre, j'ai reproduit la carte postale textuellement, oui. Y compris les fautes de français, les fautes d'orthographe. Mon grand-père, que je n'ai donc jamais connu, bien sûr... devait parler un français très approximatif. Il a écrit cette carte postale donc la veille de la déportation sur le convoi. Et c'est le dernier message finalement que nous avons jamais reçu de lui. Et donc il dit en deux trois lignes qu'il part pour une grande voyage. Et qu'il espère que tout ira bien chez sa femme, son fils, et voilà.
Alors,
une émotion terrible en trouvant cette carte postale.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme document?
Il y avait d'abord une attestation comme quoi il était disparu à Auschwitz en 1943. Une autre attestation comme quoi il était mort à Auschwitz en 1943. Mais c'est des attestations qui avaient été données par les autorités françaises en 45 ou 6 ou 7, je ne sais pas exactement. Et puis, enfin, son certificat de mariage avec ma... Enfin, des choses comme ça. Mais enfin, ce qui touchait la Shoah, enfin, lui-même, c'était donc cette carte postale. Comme il s'était avéré qu'il faisait partie du convoi 51 qui, lui, avait atterri essentiellement à Sobibor et un petit contingent à Maïdanek... il y a quelque chose qui ne collait pas entre donc, le convoi et Auschwitz. Et il se trouve que mon père a rencontré quelqu'un qui lui aurait dit que... Enfin, non, pas qui lui aurait dit, qui lui a dit qu'il avait connu mon grand-père et que celui-ci était mort dans une démarche de la mort quand ils ont commencé à évacuer le camp d'Auschwitz. Bon, je sais, j'ai lu des récits de survivants, des choses comme ça, et je sais qu'il y a effectivement des gens qui ont été... Des survivants qui ont été, d'abord qui ont été, un petit groupe qui a été envoyé de Sobibor à Maïdanek pour travailler sur une voie ferrée, et un petit groupe de Maïdanek qui a été envoyé à Auschwitz, et certains ont effectivement survécu à tout ça. Et donc, j'ai un peu, j'ai fait un copy-paste en quelque sorte, en supposant ça, mais il y a beaucoup de suppositions, il y a quelques faits, il y a beaucoup de suppositions.
Alors en fait, c'est un roman donc inspiré de faits réels.
Exactement.
Et les doutes, les silences, les trous de mémoire ont été comblés par des recherches.
Exactement.
Donc je vous entends, en fait, vous ne savez pas exactement où et quand est décédé votre grand-père.
Non, je ne sais pas exactement. Il y a un doute et il restera toujours un doute. Il se peut qu'il soit mort à Majdanek, il se peut qu'il soit mort à Auschwitz, certainement pas en 1943. Et il se peut qu'il soit mort, effectivement, comme un témoin l'a dit à mon père, dans l'heure d'une marche de la mort. Dans le livre, j'écris effectivement le 19 janvier, mais ça peut être le 18 ou le 20 ou le 21 ou je ne sais quoi, ou autre chose.
C'est votre deuxième ouvrage. Pourquoi, pour vous, c'est important d'écrire sur ce sujet?
Si vous voulez, d'abord, j'ai eu l'idée, je ne sais même pas l'idée, c'est... Comme je viens de vous dire, mes parents sont morts à 3 semaines l'un de l'autre. C'était une période extrêmement émouvante, au cours de laquelle j'ai découvert la carte postale. J'ai dit l'éloge funèbre de ma mère, l'éloge funèbre de mon père 3 semaines après. Et quand j'ai dit ces éloges, j'ai senti qu'il fallait absolument que j'écrive quelque chose, surtout qu'entre-temps, j'avais découvert la carte postale. Alors j'ai fait ce travail, si vous voulez, j'ai fait de la recherche, comme vous l'avez dit, pour combler les trous. J'ai imaginé les trous que je n'avais pas réussi à combler. Et finalement, je crois, rétrospectivement, c'est évident que c'était mon travail de deuil de mes parents, ce qui est évident, mais finalement, deuil du grand-père aussi, que je n'avais jamais pensé devoir faire ou cru devoir faire, puisque...
Est-ce que dans la famille, on en parlait de ce grand-père ou...
On en parlait, mais peu, justement. C'est des choses qui ont commencé à me travailler quand j'ai écrit le livre. Je me suis rendu compte que j'aurais pu poser énormément plus de questions sur lui. En plus, je me prénomme en hébreu comme lui en yiddish, donc j'ai toujours su que j'avais son nom, mais c'est des choses que j'ai mis de côté. Il y avait une sorte de clivage. J'ai peu posé des questions à mon père sur son père, et mon père a peu. Pourtant, mon père n'avait pas de mal à parler de la période de la résistance, mais il s'est pas porté volontaire, si vous voulez, pour me parler trop de son père. Et c'est en écrivant le livre que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que j'ignorais. Et bon, je regrette énormément maintenant de ne pas avoir posé les questions qu'il aurait fallu poser.
C'est les regrets de beaucoup d'enfants ou de petits-enfants ou d'arrière-petits-enfants de déportés.
Oui.
Le titre, donc, c'est Une grande voyage, j'essaye de le prononcer au mieux. Donc, c'est cette fameuse destination inconnue vers laquelle les Juifs étaient envoyés. On dit aussi Pichipoy. C'était indispensable pour vous, ce titre c'était...
Vous montez le doigt sur quelque chose d'intéressant, parce qu'au départ... J'avais pensé, j'ai écrit le livre pendant un an, il s'appelait La carte postale. Or, comme en août dernier est sorti le livre d'Anne Berest, La carte postale, j'étais bien entendu obligé, et qu'il y a quelque chose d'un peu similaire d'ailleurs, puisqu'elle oui. aussi, à la suite de la découverte d'une carte postale qui traîne depuis quelques années, elle a écrit son roman. Bon, donc, comme le titre était déjà pris... j'ai cherché autre chose et j'ai pris donc ces 3 mots de mon grand-père.
Alors, il y a beaucoup de transmissions dans cet ouvrage. Donc, il y a la vie de votre grand-père, celle de votre père. C'est vous, le petit-fils et fils qui l'écrivez. Et en plus, vous le dédicacez à votre petite-fille, Talia. Est-ce que c'était ça aussi l'idée? On pense à ces fameux mémoires bourreurs, ces livres de mémoire qui vaut pour témoignage de la vie de nos aïeux en monde ashkénaze. Vous l'avez pensé comme ça, ce livre?
Je voulais effectivement qu'il y ait une transmission pour essentiellement mes filles, mais vous mettez le doigt encore une fois sur quelque chose qui me fait très plaisir, parce qu'effectivement, il y a trois mots. Hein. À ma petite fille Talia, ça peut passer tout à fait inaperçu. Et effectivement, j'ai tenu à ce qu'elle, qui ne parle pas français, elle a 4 ans, elle n'est pas encore 4 ans, mais qu'un jour elle puisse avoir le récit de son arrière-arrière-grand-père. Et qu'il y ait une transmission, comme vous l'avez dit très justement.
Alors, on l'a dit, il y a deux parties. Une partie qui est sans doute peut-être plus romancée, même si historiquement, on voit qu'il y a des éléments très solides. La seconde partie, est-ce que c'est des choses que votre père vous a racontées ou c'est aussi des reconstitutions d'historiens?
C'est les deux, mais effectivement avec beaucoup plus d'anecdotes qui m'ont été transmises par mon père, par ma mère aussi. Beaucoup plus de choses qui sont fondées. Mais là aussi, je me suis rendu compte qu'il y a, par exemple, je sais pas, je décris la chambre dans laquelle mon père se trouve à Lyon. Alors, l'adresse était exacte, mais j'ai aucune idée comment était la chambre. Et j'ai jamais pensé demander à mon père, décris-moi la chambre dans laquelle tu habitais à Lyon. Alors, donc là, c'est pareil. Il y a des choses, là aussi, je me suis rendu compte, il y a énormément de choses que j'aurais pu demander que je n'ai pas fait. Mais là, il y a beaucoup plus effectivement de transmission orale que j'ai reçue de mes parents. Et quand même quelque chose, enfin, là encore, des trous que j'ai dû combler.
Alors, c'est tout à fait intéressant parce qu'il y a la petite histoire, entre guillemets, hein, celle familiale, et en même temps la grande, celle de la Shoah, donc de la destination vers la mort, mais en même temps celle de la résistance en France et en zone non occupée. C'est vraiment très précis, très étayé. Vous avez travaillé longtemps pour avoir ces informations ?
Oui, évidemment, j'ai fait énormément de recherches parce que je n'aime pas trop mettre des inexactitudes. Alors effectivement, j'ai beaucoup de documents. Bon, il y a beaucoup de documents, énormément de documents aujourd'hui. On peut trouver plein de choses. Mais effectivement, j'ai cherché de voir comment a été la vie à Lyon pendant la guerre. J'ai cherché à voir les lieux dont je parlais. Il y a les personnages que... La plupart des personnages dont je parle sont des gens qui ont existé. Ernest Lambert, c'est effectivement le chef du réseau de mes parents.
Lazarus, Lévite, tous ces noms-là connaît quand on est historien, qu'on travaille sur cette période.
Lazarus, j'ai réussi à me procurer grâce à un ami un petit livre que Jacques Lazarus a écrit qui s'appelait un truc introuvable, mais enfin j'ai réussi à trouver, qui s'appelle Juif au combat, qui m'a donné un peu des données sur ce qui se passait dans les maquis qu'il a dirigé dans le Tarn. Donc la plupart des personnages.
Oui, je me permets d'ajouter aussi par votre maman, on connaît beaucoup de choses aussi sur les réseaux des éclaireuses et des éclaireurs
absolument,
israélites,
absolument.
La sixième, la branche clandestine.
Absolument.
Et c'est vraiment bien renseigné.
D'abord, j'ai eu des renseignements de première main ou de première bouche, si je puis dire. En fait, toute mon enfance, tous les amis de mes parents étaient des anciens des AIF, donc il y a tout un réseau comme ça d'amis très proches de mes parents et j'ai baigné là-dedans dans mon enfance. Mais là aussi, j'ai dû compléter certaines choses en allant chercher dans l'Internet.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle en compagnie de Michel Granec qui nous parle de son roman Une graine voyage qui vient de paraître chez David Reynarc Édition. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans votre livre, un moment, c'est celui de la création du MJS, le mouvement de jeunesse sioniste, parce que le sionisme arrive en France et on le sait peu dans cette période sous l'occupation. Vous êtes maintenant installé en Israël. Est-ce que en filigrane, cet engagement de votre famille peut prédestiner de ce qui va se passer par la suite et notamment pour vous ?
Absolument. C'est-à-dire que mes parents, je crois, voulaient aller partir en Israël. Et personnellement, je n'ai pas été dans des mouvements de jeunesse parce que je suis plutôt individualiste. Mais l'idée d'Israël était quelque chose qui était toujours présent. Je me souviens, par exemple, quand on a eu la guerre de Suez, je devais avoir 9 ans. C'est quelque chose qui n'intéressait personne de mes petits camarades en classe. Alors que moi, j'étais rivé à la radio pour savoir où en étaient les armées israéliennes, etc., etc. Et c'était évident pour moi que quand je serai grand, j'irai en Israël. J'ai fait plusieurs voyages comme ça en tant qu'étudiant, etc. Et dès que j'ai fini mes études, je suis parti en Israël. Et c'est évident aussi qu'en partant en Israël, je savais que, en quelque sorte, je réalisais ce que mes parents avaient voulu faire et que la vie, enfin, leur travail, leur profession, etc., leur avait empêché de faire.
Enfin, ils sont restés sionistes après la guerre.
Ils sont restés sionistes. Oui. Ils étaient très aussi. Si j'étais impliqué par Israël, c'est bien parce qu'eux l'étaient. Et finalement, donc, moi, je suis parti en Israël. D'abord, en 72, j'ai fait mon stage interné là-bas. En 75, je me suis installé là-bas. Ma sœur est arrivée ensuite et mes parents ensuite. Donc, tout le monde a réalisé le vieux rêve dont il parlait pendant la guerre.
Alors, ce que j'ai aimé aussi dans cette partie, hein, c'est que vous citez des noms qu'on a complètement oubliés, par exemple celui du grand rabbin Kepel, parfois écrit Kepel, qui est l'introducteur en France du sionisme religieux. Il a fait énormément de choses, notamment dans les années d'après-guerre, et on l'avait totalement oublié, il ne reste que ses mémoires, et vous lui redonnez vie en le citant.
Oui, enfin, il n'a qu'une brève apparition. Mais enfin, il est un de ceux qui a été arrêté par le nom m'échappe pour le moment, par cet agent de la Gestapo qui s'était infiltré avec un nom de, comme quelqu'un de l'Intelligence Service. Oui. Il avait été arrêté donc avec Jacques Lazarus, mais ils ont réussi à s'échapper du convoi qui les emmenait, je crois, vers Auschwitz, si je ne me trompe pas.
Vos parents ont eu deux enfants, vous le disiez à l'instant, il y a votre sœur. Qu'est-ce qu'elle pense de ce... Est-ce qu'on peut dire que c'est un travail de mémoire ?
Oui, je crois qu'elle a été aussi très émue à lire ça. Oui. Je pense que, elle était très émue. On en a parlé. Enfin, elle sent que j'ai fait quelque chose aussi pour elle, bien entendu, et pas seulement pour moi.
Il y a une préface tout à fait remarquable de Boualem Sansal qui rappelle que c'est pas seulement un roman ou un livre de plus sur la Shoah, c'est aussi un ouvrage qui est très étayé historiquement sur les faits. Il le compare même à un livre de Primo Levi ou d'Elie Wiesel ou d'autres. Comment vous êtes mis en contact avec Boualem Sansal et comment a-t-il accepté de préfacer ce livre ?
Oui, alors d'abord c'est vraiment l'occasion de le remercier. J'espère qu'il entendra ça parce que j'ai la certitude qu'il m'a fait une fleur énorme, énorme en acceptant de préfacer le livre. D'abord, Boualem Sansal, c'est quelqu'un que j'ai découvert quand, il y a quelques années, j'ai lu Le village de l'Allemand, un livre qui est absolument extraordinaire et bouleversant et très, 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 très fort. Or, il se trouve que Misha Volkovitch, qui est un ami, qui dirige Chibolette, et qui d'ailleurs a été l'un des premiers lecteurs d'une grande voyage, connaît bien Boualem Sansal et lui a proposé d'écrire la préface. Alors Boualem Sansal ne s'est pas engagé, il a dit qu'il voulait lire d'abord et voir s'il pouvait le faire, s'il voulait le faire. Et il a commencé à lire et puis il a vu que c'était faisable pour lui. Et donc, il est reparti à zéro, il a tout écrit, il a vraiment écrit cette préface dont je lui suis extrêmement reconnaissant. D'ailleurs, sur le livre, il y a une petite bande rouge comme ça qui accompagne le livre et qui est marquée « Une grande livre pour une grande voyage ». C'est aussi une trouvaille de Boualem Sansal.
Alors, il termine sa préface avec « L'écriture ou la vie », cette citation. Et quand on vous lit, c'est finalement « L'écriture ou la mort », comme si c'était indispensable d'écrire. Alors, je ne vais pas faire du tout de psychanalyse face à vous, je n'oserais pas. Mais est-ce que c'était cathartique, en fait, d'écrire ce livre pour vous ? Est-ce que vous passez à autre chose maintenant ? Vous pensez que vous avez tout dit ? Une autre étape s'ouvre après la disparition de vos parents ?
Je me permets de vous dire bravo pour la question.
Ah, merci.
Non, pour le moment, je ne suis pas encore passé à une autre étape puisque je suis à Paris pour ça, donc je suis en plein dedans.
En pleine promotion.
Mais c'est exact que je me suis rendu compte, après avoir écrit le livre, que ça avait été pour moi quelque chose de très important, une sorte d'auto-analyse, si je puis dire, dans la mesure où mon rapport à ce grand-père... qui était complètement mis de côté, enfin, je savais qu'il avait existé, etc., c'est complètement modifié à travers ce que j'ai écrit. Alors ça vraiment a eu pour moi un effet très très important, et c'est sûr que mon rapport à ce grand-père s'est modifié, il est beaucoup plus proche de moi. Enfin, avant il était en moi, mais si vous voulez, il était en moi inconnu, comme un fantôme. Maintenant, c'est quelqu'un, enfin, on peut plus dire en chair en os, mais... Je pourrais dire autrement, s'il était un mort sans sépulture, je crois que ce livre lui a donné une sépulture. Et, bon, et ce à quoi je vais passer, je verrai ça quand je serai retourné dans mes pénates pour voir où j'en suis maintenant.
Et à vous écouter, en plus, il y a une étape aussi qui est au-delà de celle que vivent souvent des enfants, des petits-enfants déportés qui ont la date de disparition. Sans sépulture de leurs aïeux, vous n'avez pas la date.
Non,
et ça, c'est terrible.
On n'a pas la date, on n'a pas la certitude.
Oui. Le lieu.
Ni le lieu, non. Enfin, pour le livre, il y a la fiction du livre qui a décidé. Mais en fait, il y a des points d'interrogation, 43, 44, 45, Maïdanek, à Auschwitz, après Auschwitz, je ne sais pas.
Dans l'écriture, parce qu'il faut dire aussi que c'est très bien écrit, donc il y a, comme on l'a dit, l'histoire familiale, il y a la grande histoire, et puis il y a ce style littéraire qui est très agréable à lire, en même temps très fouillé. Quand vous avez écrit le livre, est-ce que vous pensiez à sa réception? Est-ce que vous avez une idée de qui pourra lire ce livre et à qui il s'adresse?
Oui et non, enfin... Il y avait plusieurs choses, mais c'était flou. Enfin, d'une part, j'écris en français beaucoup mieux qu'en hébreu, donc c'est évident que je l'écrirais en français. C'est évident, d'un autre côté, que je voulais que mes filles, qui parlent français, mais qui le lisent beaucoup moins bien, puissent y accéder. Alors, bon, je ne sais pas trop comment. D'un autre côté, je me demandais si ce n'était pas un peu comme le dit Boualem Sansal dans son œuvre, encore un livre sur la Shoah, donc il n'intéresserait personne sauf moi ou mes proches.
Alors, quelle réponse vous apportez à cette question? Est-ce que c'est un livre de plus sur la Shoah?
J'espère que non. J'espère que... Hier soir, j'avais une amie qui me disait, et je me demandais si je devais prendre ça comme un compliment ou au contraire comme un problème du livre, qu'elle avait commencé à le lire et qu'elle s'était arrêtée parce que c'était trop dur. Il y avait des moments qui étaient absolument épouvantables dans la mesure où je reconstitue la vie de tous les jours dans des camps. Alors, s'il y a quelque chose de... Enfin, je pense que je ne suis pas le premier, certainement pas. Et ensuite, il y a des gens qui sont des survivants qui peuvent dire ça beaucoup mieux que moi. Mais si j'apporte quelque chose quand même dans le vécu, ça peut peut-être intéresser non pas seulement le public... juif ou qui s'intéresse à la Shoah, mais avoir un public plus vaste. Mais ça, c'est l'avenir nous le dira, j'ai aucune idée.
Alors, vous parliez de retour. Qu'est-ce qu'on vous dit généralement, à part cet ami qui vous a fait ce commentaire? Qu'est-ce qu'on dit quand on lit votre livre?
Y a peu de gens qui l'ont lu, parce que je crois qu'il n'est pas encore en librairie ou il vient à peine
de sortir. Oui,
c'est ça. Y a des gens qui ont lu le PDF, enfin, j'ai toujours reçu beaucoup de compliments, mais comme mes premiers lecteurs sont des gens très proches sont toujours ont beaucoup de louanges. Alors donc, j'attends d'avoir des retours de personnes que je ne connais pas.
Alors, il y a une question difficile, mais néanmoins classique dans cette émission. Pour terminer, si vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de lire votre roman, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je dirais peut-être que... C'est comme vous l'avez vaguement abordé tout à l'heure, la rencontre de l'histoire avec un petit H, avec l'histoire avec un grand H, ou même en citant Georges Perec, avec une grande H qui va bien avec une grande voyage. Mm-hmm. Donc quelque chose de particulier, mais qui rejoint peut-être l'universel, et un universel qu'il faut ne pas oublier, parce que quand on voit ce qui se passe, même si la comparaison n'a pas été acceptée en Israël, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit tous les génocides qu'il peut y avoir, on se rend compte que ce n'est pas fini cette histoire, malheureusement.
Alors, je vais me permettre de donner un dernier avis sur ce livre, parce que je l'ai lu et je trouve que c'est un livre utile. Presque pédagogique. On a l'impression que vous, l'auteur, le narrateur, vous êtes identifié avec la personnalité de votre grand-père et que c'est vous qui vivez ces faits qui sont d'une extrême précision. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est douloureux. C'est douloureux aussi quand on a de la famille qui a été déportée. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc bravo pour votre livre. Je pense que à terme, enfin j'espère qu'il peut devenir une référence sur la déportation des Juifs de France vers les camps de la mort et en même temps renseigner sur la résistance juive en zone non occupée. Donc merci beaucoup, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions pour les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom. Donc je rappelle le titre de votre roman, Une grande voyage, qui vient de paraître chez David Reynarck Édition. Bonsoir, à très bientôt.
Je vous remercie infiniment.